EOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Dakar, 18h à Bangui. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre journal d'information. Dans l'actualité africaine, la médiation algérienne au pourparlers de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord du pays a remis aux parties un nouveau projet d'accord selon le document consulté vendredi par l'AFP. Un texte de 30 pages qui appelle à reconstruire l'unité nationale du pays sur des bases novatrices qui respectent son intégrité territoriale, tiennent compte de sa diversité ethnique et culturelle. En Mauritanie, le gouvernement a annoncé la création d'un organe indépendant pour prévenir la torture après de récentes accusations d'Amnesty International sur cette pratique dans le pays, rapporte vendredi l'Agence mauritanienne d'information. La venue vendredi à l'UNESCO de Paul Kagame a été marquée par deux manifestations distinctes aux abords du siège de l'Organisation internationale à Paris. L'une d'opposants au président rwandais, l'autre de ses partisans. Une quarantaine d'opposants au président ont manifesté près du siège donc de l'UNESCO au cri de Kagame criminel, Kagame assassin, et pour réclamer la démocratie et le respect des droits de l'homme au Rwanda, où le régime autoritaire ne laisse aucun espace de liberté à l'opposition. Au Congo, une quinzaine de partis de l'opposition appellent le président Denis Sassou Nguesso à engager sans délai un dialogue national à l'approche de la présidentielle prévue en 2016. D'après l'AFP, le collectif de l'opposition demande également l'élaboration d'un calendrier rigoureux des différentes opérations préélectorales et électorales. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des déplacés ont commencé à rentrer à Mulenge après la fin de l'offensive de l'armée contre des rebelles Hutus rwandais. Plus de précisions avec Salwa Jaafari.
Les habitants de Mulenge, localité du sud de la province du Sud Kivu, de quelques 10 000 habitants qui étaient réfugiés à l'Emera et ses environs, à une trentaine de kilomètres de Mulenge, ont commencé à rentrer depuis jeudi soir, a précisé à l'AFP un habitant de l'Emera. On ignore combien de gens précisément étaient concernés, mais un responsable d'association a évoqué plusieurs centaines de personnes rentrant chez elles. Jeudi, un officier de l'armée sur le front avait dit que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient repris Mulenge et des villages environnants. Il a ajouté que l'armée poursuivait les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR, dans les grandes forêts où ils se sont retranchés. Les troupes régulières ont déclenché mardi, sans l'appui des casques bleus, une offensive au sud Kivu contre les FDLR, dont les chefs sont accusés d'avoir participé au génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, qui a fait quelques 800 000 morts selon l'ONU. Cette opération est la première signalée depuis que l'armée avait annoncé le 29 janvier le lancement d'une offensive contre le FDLR, auteur de graves exactions contre les civils congolais et qui se livre à de lucratifs trafics de bois et d'or. La mission de l'ONU, la MONUSCO, avait promis un soutien logistique, stratégique et opérationnel à l'offensive de l'armée, mais elle l'a retiré quand Kinshasa refusait de changer deux généraux, Bruno Mandevu et Sikabwe Fall, chargés de piloter les attaques au nord Kivu. La MONUSCO soupçonne les deux généraux de graves violations des droits de l'homme.
RDC toujours, la Cour pénale internationale confirme aujourd'hui en appel l'acquittement du Congolais Mathieu Ngudjolo Tchoui, accusé d'avoir dirigé l'attaque d'un village en RDC en 2003, ayant fait plus de 200 morts. L'appel de l'accusation contre le verdict est donc rejeté. En Zambie, l'ancien ministre des Mines, Maxwell Mwale, a été condamné vendredi à un an de prison pour corruption après avoir accordé irrégulièrement une licence d'exploitation à une compagnie chinoise. Depuis l'arrivée au pouvoir du Front patriotique de M. Sata en 2011, plusieurs personnalités politiques zambiennes ont été inquiétées, dont l'ancien président Banda, personnalités qui généralement sont accusées de corruption. En République centrafricaine, consultation entre la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, et les autorités de la transition lors de sa visite de travail de 48 heures à Bangui. Le point sur son entretien avec la présidente Catherine Samba-Panza, avec Antoinette Montaigne, la porte-parole de la présidence centrafricaine.
Comme vous le savez, la présidente de la transition a accepté, il y a un mois, le transfert de Dominique Ongwen de la LRA à la CPI. Donc, c'était un acte fort de collaboration claire et franche avec la Cour pénale internationale. Même si ce qui s'est passé ne concernait pas la République centrafricaine, c'était des infractions qu'on reprochait à la LRA sur d'autres pays voisins. Mais le fait que ce personnage se trouvait sur le territoire centrafricain a justifié que la République centrafricaine et le chef de l'État de la transition a donné son accord pour une collaboration franche avec la Cour pénale internationale dans sa mission de lutter contre les violations des droits humains. La procureure est venue ici pour remercier et encourager les autorités de la transition.
Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence centrafricaine. Elle répondait aux questions de Félix Yepassis Zembrou. L'instance représentant l'islam auprès des autorités égyptiennes, Dar al-Ifta, a estimé aujourd'hui vendredi que la destruction des trésors antiques en Irak par le groupe État islamique révélait leur ignorance de l'islam, une religion qui au contraire encourage et ordonne la préservation du patrimoine. Pour les djihadistes, c'est le contraire, les statues et les tombes favorisent l'idolâtrie, un avis qui reste extrêmement marginal, même chez les religieux les plus traditionnels. L'épidémie Ebola n'est pas terminée au Libéria, même si le nombre d'infections s'est énormément réduit, a prévenu vendredi le secrétaire d'État américain John Kerry en recevant la présidente de ce pays d'Afrique de l'Ouest, Ellen Johnson Sirleaf. Les États-Unis mettent fin à leur mission militaire au Libéria et Madame Sirleaf est venue à Washington remercier le gouvernement américain et le Congrès pour l'aide de 2,5 milliards de dollars et l'envoi de 2 800 militaires. Le nombre de nouveaux cas au Libéria a été réduit de 95%, a précisé M. Kerry, qui a toutefois tenu à dire que tant que l'on continuerait à enregistrer de nouvelles infections, même à des niveaux faibles, on ne pourrait pas déclarer que l'épidémie est terminée.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le reste du monde, les violences ont repris vendredi dans l'Est séparatiste pro-russe de l'Ukraine après une courte accalmie au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU veut tenir une réunion d'urgence sur le conflit qui a fait 5800 morts en 10 mois. L'armée ukrainienne a fait état vendredi de 3 soldats tués et 7 blessés en 24 heures. Par ailleurs, à Washington, le patron des services de renseignement américains se dit favorable à la livraison d'armes défensives à Kiev. Chérubin Dorsil.
En effet, a déclaré le directeur national des renseignements devant la commission des forces armées du Sénat, même s'il est difficile de prédire les actions du président Vladimir Poutine, une décision de Washington d'armer les Ukrainiens pourrait amener Moscou à fournir plus d'armes sophistiquées aux séparatistes. À mon avis, les services de renseignement croient que la livraison d'armes létales à l'Ukraine provoquerait une réaction négative de la part de M. Poutine et des Russes, a dit M. Clapper. Cependant, d'un point de vue personnel, a-t-il ajouté, il serait favorable à la livraison d'armes défensives aux forces de Kiev. L'influent sénateur John McCain et d'autres législateurs américains insistent pour que l'administration Obama arme l'Ukraine, alors que le soutien de Moscou aux rebelles séparatistes paraît de plus en plus évident.
Les principales formations de l'opposition syrienne de l'intérieur et en exil ont annoncé vendredi être parvenues pour la première fois à un accord sur l'ébauche d'une feuille de route pour mettre fin au conflit qui entrera le mois prochain dans sa 5e année. En Cisjordanie, des centaines de manifestants ont tenté vendredi, comme depuis 10 ans exactement, dans le village palestinien de Bilin, d'atteindre le mur de séparation érigé par Israël le long de la Cisjordanie occupée et ont été repoussés, comme depuis 10 ans, par des projectiles anti-émeutes israéliens ont constaté les journalistes de l'AFP. Enfin, bonne nouvelle pour terminer cette édition, le film Timbuktu, chronique de la vie au Mali sous la coupe des djihadistes, sera bien diffusé au FESPACO, l'un des principaux festivals de cinéma africain qui s'ouvre samedi à Ouagadougou. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 20 minutes pour Le Monde Aujourd'hui. Soyez